VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 31 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord, fait sans précédent ici aux États-Unis, un ancien président inculpé. Donald Trump clame son innocence et dénonce une persécution politique. L'essentiel de cette édition sera consacré à ce développement historique. Donc, ici aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump est officiellement inculpé au pénal par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dépendant de la justice de l'État de New York, pour une affaire liée au versement juste avant la présidentielle de 2016 de $130,000 à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels. Celui qui rêve de reconquérir la Maison-Blanche en 2024 va devoir se rendre à la justice de New York, un fait historique sans précédent pour un ancien président américain qui a dénoncé jeudi une persécution politique. Le point avec Eric Manirakidza.
Selon la procédure pénale de l'État de New York, le procureur Bragg devait se conformer au vote d'inculpation du grand jury dont les débats sont confidentiels. Dans les jours qui viennent, l'ancien président Trump devra donc se rendre au tribunal de Manhattan pour se voir signifier son inculpation par un juge, être brièvement et symboliquement placé en état d'arrestation, photographié et ses empreintes digitales relevées. Il devra alors plaider coupable ou non coupable. L'homme clé du dossier s'appelle Michael Cohen, ancien avocat et désormais ennemi de M. Trump. Il avait payé l'actrice de porno Stormy Daniels. Il a témoigné devant le grand jury et l'actrice a aussi coopéré avec la justice. Le bureau du procureur de Manhattan a annoncé hier soir avoir pris contact avec un avocat de Donald Trump pour organiser sa reddition devant une cour suprême de New York. L'acte d'inculpation reste pour l'instant sous scellé et la date de l'audience n'est pour le moment pas connue, selon le communiqué. De son côté, Donald Trump, qui a toujours nié tout délit et toute liaison avec Stormy Daniels, avait estimé dimanche que l'enquête de M. Bragg était morte, une escroquerie et une ingérence électorale orchestrée par des voyous avant 2024. Accusé par M. Trump d'être un animal et un raciste, le procureur Bragg, un magistrat africain-américain classé à gauche, en poste depuis janvier 2022, avait répondu que Trump avait créé une fausse attente médiatique sur son inculpation et dénoncé une ingérence dans l'enquête. Après avoir tenu en haleine l'Amérique pendant 10 jours, cette inculpation historique semblait encore hier jeudi ne pas devoir survenir avant fin avril. Monsieur Trump avait réussi un coup d'éclat politique le 18 mars en affirmant sur son réseau Truth Social qu'il serait arrêté et comparaîtrait à New York 3 jours plus tard. Mais rien ne s'était passé. À Manhattan, où l'ancien président n'avait pu rallier la semaine dernière que quelques dizaines de partisans, les abords du tribunal et de la Trump Tower étaient très calmes hier soir.
Dans un communiqué, le 45e président des États-Unis a brocardé ce qu'il a appelé une persécution politique et une ingérence dans l'élection présidentielle de novembre 2024. Et ses partisans et même l'un de ses rivaux républicains l'ont défendu, Lionel Gahima.
Donald Trump a dénoncé encore une fois une chasse aux sorcières qui se retournera, a-t-il dit, contre Joe Biden, le président démocrate élu en novembre 2020 et que M. Trump accuse depuis plus de 2 ans d'avoir volé la victoire. Sur son réseau social Truth Social, M. Trump a torpillé des adversaires qu'il n'a pas nommés. Ils me poursuivent de manière bidon et honteuse parce que ils savent que je suis aux côtés du peuple américain et que je ne peux pas bénéficier d'un procès équitable à New York, sa ville natale, majoritairement démocrate. L'un de ses fils, Eric Trump, a tonné sur Twitter contre un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale. Et l'un des rivaux républicains de Trump pour 2024, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a jugé cette inculpation contraire aux valeurs de l'Amérique et a assuré que son État, où réside l'ancien président, ne répondrait pas favorablement à une demande d'extradition de l'État de New York. Même soutien sans faille du président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour qui le peuple américain ne tolérera pas ce qu'il a appelé cette injustice et un abus de pouvoir sans précédent de la part du procureur Bragg, issu du Parti démocrate. En revanche, pour l'avocat de l'actrice pornographique Stormy Daniels, Stephanie Clifford, de son vrai nom, il n'y a pas de quoi se réjouir. Le travail difficile et consciencieux des grands jurés doit être respecté, a écrit sur Twitter Clark Brewster. Maintenant que la vérité et la justice l'emportent, personne n'est au-dessus de la loi. Du côté des démocrates, le parlementaire Adam Schiff a jugé que l'inculpation et l'arrestation d'un ancien président était unique dans toute l'histoire américaine. Depuis des années, la justice new-yorkaise cherche à déterminer si l'ex-président républicain de 76 ans s'est rendu coupable de fausses déclarations, une infrastructure mineure ou de manquement aux lois sur le financement électoral, un délit pénal, en ayant versé de l'argent à Stormy Daniels juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016. Dans quel but? Pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale datant de 2006.
Que faut-il attendre maintenant des partisans de M. Trump? Il leur avait demandé de manifester, amenant les autorités à New York de renforcer les mesures de sécurité dans la ville. À quoi faut-il s'attendre? La question que j'ai posée à notre confrère René Lake, un politologue basé à Washington.
Oui, écoutez, vous savez, c'est une question qu'on se pose tous. Mais alors, la première réaction, on l'a déjà vue, de beaucoup de leaders républicains, ils créent un scandale, y compris même l'ancien vice-président Mike Pence, disent que tout le monde crie un peu au scandale, alors qu'on ne sait pas exactement quels sont les chefs d'accusation. On ne le saura qu'à partir de mardi ou mercredi la semaine prochaine. Si déjà au niveau du leadership, il y a une réaction de ce type-là, je crois que c'est parce qu'ils anticipent quelque part la réaction de la base, et notamment de la base radicale qui est favorable à Trump, et que c'est une manière pour eux de capitaliser politiquement et d'aller dans ce sens-là. Donc il faut s'imaginer que la base ne va pas rester tranquille, les bras croisés. Il faut imaginer qu'il va y avoir du mouvement, que ça va bouger d'une manière ou d'une autre. Maintenant, jusqu'à quel point, je pense que ça va dépendre aussi des chefs d'accusation, parce que si les gens tout d'un coup se rendent compte que c'est beaucoup plus sérieux que tout le monde ne le pensait ou que tout le monde ne le pense vraiment, effectivement, ça peut peut-être diminuer l'ardeur de la base et des radicaux proches de Trump.
C'est pas la seule affaire juridique pour M. Trump. Comment est-ce que cette affaire va-t-elle affecter sa campagne électorale pour 2024?
Oui, alors ça c'est une question que tout le monde se pose. Bon, il a dit lui-même qu'il allait continuer sa campagne, il va rester candidat, il ne compte pas se retirer du fait de cette mise en accusation. Bon, écoutez, il y a les deux thèses. Il y a une thèse qui voudrait que ça peut même lui être très bénéfique, qu'il va pouvoir mobiliser beaucoup de fonds, comme il l'a déjà fait déjà là, il y a une dizaine de jours, là, quand il a fait son annonce d'une arrestation mardi et qui ne s'est pas produite. Je crois qu'il a mobilisé quelque chose comme 2 millions de dollars. Donc là également, j'imagine qu'il va lever des fonds à partir de cette situation-là et que beaucoup de gens vont lui en donner. Donc déjà, politiquement, ça va l'aider, avoir un peu plus de moyens, mais aussi ça va mobiliser, il y a de très fortes chances que ça mobilise sa base. Maintenant, il y a aussi une autre analyse qui consiste à dire, attention, c'est que si au fond cette procédure n'aboutit pas, ou que si elle aboutit, qu'il s'en sorte sans être inculpé définitivement, sans être condamné, disons, il peut en tirer un bon bénéfice politique. Donc il y a aussi toujours ce risque-là, parce que si on va à un procès, il suffit simplement qu'il y ait un des jurés qui s'oppose à une condamnation et qu'il s'en sorte à bon compte, ça peut politiquement lui être favorable. Mais comme on est dans une situation tout à fait inédite historiquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'il est très difficile d'anticiper ce qui va se passer.
L'analyste politique René Lake, basé ici à Washington, parmi les autres affaires juridiques auxquelles fait face l'ancien président Trump, l'assaut contre le siège du Congrès le 6 janvier 2021, l'enquête du procureur spécial Jack Smith sur le rôle de M. Trump dans les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Il se penche aussi sur l'affaire des documents présidentiels que M. Trump était censé remettre aux archives nationales à son départ de la Maison-Blanche, l'élection de 2020 en Géorgie où une procureure de l'État enquête depuis 2021 sur les tentatives d'influencer les opérations électorales de cet État du Sud, remporté d'une courte tête par Joe Biden en 2020. Enfin, Laetitia James, une élue démocrate à la tête de la justice de l'État de New York, qui a déposé plainte contre Donald Trump, ses enfants et la Trump Organization. Merci à René Lake, Eric Manirakidza et Lionel Gahima. Dans un instant, le reste de l'actualité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, au Sénégal, un tribunal a condamné hier l'opposant Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Selon ses avocats, cette peine préserve l'éligibilité de M. Sonko pour la présidentielle de 2024. Le point avec Rosine Mounezero.
Outre les 2 mois de prison avec sursis, le tribunal a condamné Ousmane Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Monsieur Sonko, 48 ans, devait répondre de diffamation, injures et faux. Le tribunal a relaxé des délits d'injures et de faux. Condamné à 2 mois de prison avec sursis, Ousmane Sonko reste éligible pour la présidentielle de 2024, ont déclaré ses avocats, Maître Bamba Cissé et Cheikh Kouraïssi Ba. L'un des avocats du ministre, le français Pierre-Olivier Sûr, s'est dit satisfait que son client ait obtenu gain de cause et que l'éligibilité de M. Sonko soit préservée. Le jugement diminue temporairement les tensions qui secouent le pays depuis des semaines et qui, hier encore, ont mis à l'arrêt Dakar, la capitale quadrillée par les policiers et les gendarmes. Cependant, le sort de M. Sonko reste suspendu à une autre procédure où il est accusé des faits présumés de viol, ce qu'il conteste.
L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, désormais opposant, a appelé hier les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025, après la défection ces dernières semaines de certains cadres Jacques Aristide.
Nous avons besoin d'union et de cohésion pour gagner ces prochaines batailles, a déclaré M. Bédié à l'occasion d'un congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cet appel à l'unité fait écho aux défections de cadres comme Narcisse Ndri qui a rejoint le parti au pouvoir. L'ex-chef de l'État de 88 ans a aussi dit que des alliances pourraient être nouées pour les prochains scrutins. Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Unis et déterminés, joignons toutes nos forces, a-t-il déclaré devant plus d'un millier de congressistes. Au premier rang, des figures d'opposition, dont des cadres du parti d'un autre ancien président, Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, ou encore Charles Lé Goudé. Tous ont été acclamés par la salle, tout comme le représentant de l'ambassade de Russie. Dans son discours, Henri Konan Bédié a également fait un constat sévère sur la Côte d'Ivoire. Notre population souffre, la pauvreté est sans précédent, notre système éducatif est en déliquescence, a-t-il notamment affirmé, tandis que les représentants du parti au pouvoir, invités au congrès, ont été hués par une partie de l'assistance. Monsieur Bédié a toutefois assuré tendre la main au président Alassane Ouattara pour engager un dialogue franc et sincère au bénéfice d'une paix durable. Des élections municipales et régionales doivent se tenir en septembre prochain. Quant à la présidentielle, elle aura lieu en 2025.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a dévoilé hier une initiative visant à développer le commerce avec la Tanzanie, saluant la dirigeante de ce pays d'Afrique de l'Est comme une championne de la démocratie, Michelle Joseph.
Kamala Harris a déclaré lors d'un point de presse aux côtés de la présidente Samia Suluhu Hassan que l'Exim Bank, l'agence de crédit du gouvernement américain, signerait un protocole d'accord pour faciliter jusqu'à 500 millions de dollars d'exportation vers la Tanzanie dans le domaine des transports, des infrastructures, des technologies numériques et des projets d'énergie propre. Madame Harris a décrit la première femme présidente de la Tanzanie, qui a fait reculer les politiques autoritaires de son défunt prédécesseur, John Magufuli, comme une championne de la démocratie. Madame Hassan a qualifié leur rencontre d'étape historique et a parlé de Madame Harris comme d'une sœur. Elle a entamé sa deuxième année de mandat le 19 mars. En janvier, elle a annoncé la levée de l'interdiction des rassemblements politiques, ouvrant ainsi la voie au retour du pilier de l'opposition Tundu Lissou, qui avait passé la majeure partie des cinq dernières années en exil. De la Tanzanie, Kamala Harris se rend aujourd'hui en Zambie, où elle va conclure sa tournée le 2 avril.
Il est trop tôt à ce stade pour évoquer un échange de prisonniers, a affirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, au sujet du journaliste américain arrêté pour espionnage en Russie. Les précisions de John Linden.
Je ne soulèverai pas la question de cette manière maintenant, car vous savez, certains échanges ont eu lieu dans le passé pour des personnes qui purgeaient déjà des peines, y compris des citoyens américains, pour des charges assez graves, a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Les États-Unis ont condamné jeudi la détention du journaliste américain du Wall Street Journal. La prise pour cible des citoyens américains par le gouvernement russe est inacceptable, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a tenu à rappeler que les Américains résidant ou voyageant en Russie doivent quitter le pays immédiatement. La décision de la Russie montre son mépris total pour la liberté de la presse, a tweeté le ministre britannique des Affaires étrangères James Shaverley. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, a exprimé son inquiétude, appelant Moscou à respecter la liberté de la presse. Moscou a annoncé jeudi l'arrestation pour espionnage d'Evan Gershkovich et a mis en garde Washington contre toute forme de représailles.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les dates officielles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont été confirmées par la CAF.
Oui, le coup d'envoi de la fête du football africain va être donné le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. La finale aura lieu le 11 février. Sur la base de ses premières estimations, la CAF dit prévoir des audiences télévisées et des fréquentations de stades records pour cette CAN 2023. Il s'agira de la 34e édition du tournoi qui revient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après 1984, où le Cameroun avait remporté la compétition pour la première fois. Pour rappel, sept pays sont déjà qualifiés pour cette CAN. Il s'agit du pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Il reste encore 17 places à prendre lors des deux dernières journées prévues pour juin et septembre prochains.
Hervé Renard, nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine.
L'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire et de l'Arabie Saoudite a été nommé hier jeudi sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'en août 2024. Le poste était vacant depuis le limogeage de Corinne Diacre le 9 mars, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à la tête de la Zambie en 2012 et de la Côte d'Ivoire en 2015. Hervé Renard a pour mission de faire briller les Bleus lors de la prochaine Coupe du Monde. La compétition est prévue du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais la première priorité du Français sera de ramener calme et sérénité au sein d'un groupe fragilisé par la fronde de plusieurs cadres, Wendy Renard, Khadidia Toudiani, Marie-Antoinette Katoto, qui se sont mises en retrait de la sélection pour protester contre le management de Diacre, aboutissant au renvoi de la sélectionneuse.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, quelques dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal a condamné hier l'opposant Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Le tribunal a aussi condamné M. Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA au ministre. Il l'a relaxé des délits d'injure et de faux. Selon ses avocats, cette peine préserve l'éligibilité de l'opposant pour la présidentielle de 2024. Mais M. Sonko reste suspendu à une autre procédure dans laquelle il est mis en cause pour des faits de viol présumés, accusation qu'il conteste. Yacouba Ouédraogo a joint à Dakar maître Amadou Ali Khan, avocat défenseur des droits de l'homme.
Je constate que c'est un verdict qui va plutôt dans le sens de l'apaisement, dans la mesure où d'abord il n'y a pas de peine privative de liberté. Et ensuite, la peine qui a été prononcée ne prive pas M. Ousmane Sonko de la possibilité d'être candidat à la présidentielle de 2024. Quant à la condamnation pécuniaire, je pense que, en principe, elle ne devrait pas constituer un gros rouleau d'étranglement pour lui.
Que prévoit la loi sénégalaise, justement, en termes d'éligibilité par rapport aux différentes condamnations? Qu'est-ce qui priverait Sonko d'une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024?
Si la condamnation avait dépassé 3 mois avec sursis, en ce moment, l'éligibilité serait engagée, mais ce qui n'est pas le cas. Sauf si la juridiction relève le condamné, justement, de la défiance électorale. Et heureusement, donc, cela n'est pas arrivé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit qu'après la condamnation, il n'y a pas eu beaucoup d'agitation dans les rues à Dakar.
Est-ce que vous pensez que ce jugement va apaiser les ardeurs des différents partisans d'Ousmane Sonko, qui ont quand même vivement manifesté ces derniers temps?
On va dire qu'il y a un apaisement partiel, dans la mesure où il y a aussi une autre affaire qui est pendante. C'est l'affaire qui l'oppose à la dame Hadji Sarr et qui porte sur l'accusation de viol, tentative d'assassinat, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, toujours lié aux problèmes politiques, il y a aussi l'arrestation d'un grand nombre de ses partisans, notamment cette fameuse affaire dite du commando, et avant elle, celle dite des forces spéciales, où un certain nombre de ses partisans ont été appréhendés par la justice, font l'objet de poursuites pour des accusations, notamment portant sur des troubles à l'ordre public, et même l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on va dire que peut-être que ça, c'est le début d'un processus d'apaisement global.
Comment vous voyez la suite autour de toutes ces affaires présumées liées à Ousmane Sonko sur le plan juridique et politique?
C'est la politique qui va déterminer plutôt la dimension juridique des choses. Et je crois aussi que sur ce plan, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes volontés, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, qui puissent intervenir pour essayer d'arrondir les angles. Parce que personne ne voudra que, après les situations d'instabilité qui ont été constatées au Mali, au Burkina Faso et ailleurs en Afrique de l'Ouest, que le Sénégal également rentre un peu dans l'œil du cyclone. Donc très clairement, tous les amis du Sénégal, qu'ils soient africains ou internationaux, vont certainement s'investir pour essayer d'arrondir les angles. Et comme ici, la politique a une peignance sur la justice, c'est donc de ce côté qu'il faut espérer peut-être le salut.
Maître Amadou Ali Khan, avocat défenseur des droits de l'homme. Au Tchad, les conseillers nationaux ont validé le décret portant nationalisation de tous les actifs et de tous les droits des compagnies pétrolières étrangères. Le pays devient ainsi le seul détenteur du projet pétrolier de Doba dans le sud du pays. Notre correspondant sur place, André Kotmadjingar.
La nationalisation des compagnies étrangères qui exploitent le pétrole tchadien depuis plus de 25 ans n'a pas été planifiée par le gouvernement de transition, a déclaré le ministre en charge des hydrocarbures. Cette décision aura une lourde conséquence sur l'économie nationale, étant donné que depuis la mise en place de l'ajustement structurel, l'État tchadien est réputé mauvais gestionnaire, estime Max Kamkoué, juriste et économiste de formation.
Il faut qu'on arrête d'enfariner les Tchadiens. Un pays qui n'arrive même pas à gérer les recettes fiscales et douanières, les recettes non fiscal, qu'un pays endetté et en état de détresse financière peut-il être à même de gérer des ressources national et des revenus pétroliers.
Techniquement, financièrement et juridiquement, cette décision ne se justifie pas et les conséquences sont inévitables et indéniables, a-t-il ajouté.
À ce niveau déjà, il va y avoir un tassement, lequel tassement va conduire à la stagflation ou une récession économique globale sur l'ensemble du territoire. Le fait de prendre les actifs d'une société membre d'un consortium porte atteinte à ce qu'on appelle la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Pour rentrer dans le secteur pétrolier, il faut avoir de l'expérience. Le Tchad n'a pas la capacité, le Tchad n'a pas la compétence, le Tchad n'a pas de ressources humaines. Où est-ce que le Tchad va tirer tout ça pour pouvoir lui-même produire, distribuer et commercialiser?
Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndira Somle Bemadjel, assure ses concitoyens sur des inquiétudes liées à la légitimité de l'acte du chef de l'État et le risque juridique qui serait lié à cette décision.
C'est en connaissance de cause et l'État s'est entouré de bons avocats. Ce qu'il soit fait de bien, c'est le transfert de compétences. Aujourd'hui, c'est les Tchadiens qui opèrent tous ces équipements extrêmement complexes. Et d'ailleurs, depuis la reprise en main par les Tchadiens, on a augmenté de 10% la production. Alors que cette production, elle était plus basse depuis presque une année. Mais pourquoi on a encore besoin même des compagnies étrangères pour exploiter le pétrole?
Pour le ministre des Hydrocarbures, tout serait parti d'un constat amer qui tue l'économie nationale à travers le pipeline. Il précise que les trois membres du consortium ne payent pas des frais commerciaux pour exporter leur brut.
Mais eux, leur but aujourd'hui, ça représente 30 000 barils. Sur chaque baril qui transite, ils versent 2,7 $ par baril aux membres du consortium. Mais quand vous calculez sur la quantité du brut exporté, c'est presque 300 millions de francs CFA par jour. Mais ils remettent encore comme coût pétrolier et ils déduisent de leur compte sur l'IS. Donc aujourd'hui, avec ce projet de nationalisation, le Tchad devient détenteur à 100% du projet d'Oba. Pourquoi ça va paraître quelque chose de dangereux, de mauvais pour notre économie?
Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, estime que les Tchadiens peuvent se réjouir de la décision du président de transition de nationaliser ses compagnies pétrolières.
On devrait faire ça depuis longtemps, parce qu'on nous a toujours critiqué qu'on ne contrôle absolument rien dans toute la procédure.
Certains Tchadiens estiment qu'avec cette nationalisation des compagnies pétrolières, toutes les conditions sont réunies pour mieux détourner les maigres ressources du Tchad. André Kodouma Dingar, Ndjamena, pour VOA Afrique.
Sommet pour la démocratie du président Biden, les États-Unis ont annoncé mercredi un nouveau coup de pouce financier aux programmes qui font progresser la démocratie dans le monde. Reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA, récit de Jacques Aristide.
Les valeurs de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme sont attaquées aux quatre coins du globe, a averti Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lors du sommet pour la démocratie.
Les murs se referment sur les espaces civiques, les droits constitutionnels sont restreints et les libertés civiles sont érodées. La liberté d'expression est en chute libre.
Antonio Guterres en a profité pour appeler les pays à rétablir la confiance et à lutter contre les inégalités. Pour le président américain Joe Biden, qui intervenait depuis la Maison-Blanche, il y a des signes réels que le vent a tourné vers davantage de démocratie sur la planète. La démocratie demande de gros efforts et la tâche n'est jamais finie, a-t-il toutefois ajouté.
Nous prévoyons d'ajouter 690 millions de dollars pour un nouveau financement de l'initiative présidentielle au cours des deux prochaines années. Et au cours de trois ans, mon administration a l'intention de travailler avec le Congrès pour s'engager à débourser 9,5 milliards de dollars dans tous nos efforts pour faire progresser la démocratie dans le monde.
Une attention particulière sera accordée à la technologie, du moins celle qui peut aider à améliorer la démocratie.
Au début de cette semaine, j'ai signé un décret ici aux États-Unis pour restreindre l'utilisation par le gouvernement américain de logiciels espions commerciaux qui ont été abusés pour cibler des dissidents, des militants et des journalistes du monde entier, y compris ici aux États-Unis.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a également pris part à l'événement virtuel, a rappelé au monde pourquoi il était crucial de soutenir son pays contre l'invasion russe.
La Russie est en guerre contre vous tous depuis longtemps, contre les démocrates du monde. Elle lutte par la désinformation, l'ingérence électorale, l'espionnage, la corruption, l'exportation, la cybercriminalité.
La démocratie est attaquée et il faut la relancer, a pour sa part déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, l'un des co-organisateurs avec le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie de ce sommet qui réunit les dirigeants de 121 pays et qui prend fin ce jeudi. Pour la Chine, qui n'a pas été invitée, cet événement attise la division au nom de la démocratie. La Russie a, elle, accusé les États-Unis d'hypocrisie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.